Et comme chaque samedi, on va décrypter l'actualité du Pacifique avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie.
Bonjour à tous.
Alors on commence bien avec le blocage du gouvernement qui se poursuit en Nouvelle-Calédonie.
Les 11 membres du gouvernement se sont réunis en début de semaine pour tenter d'élire un président. C'est la troisième tentative depuis fin août et troisième échec. Les divisions au sein du camp loyaliste sont vives et le président sortant Philippe Germain, le seul candidat, n'arrive pas à avoir la voix des républicains calédoniens. C'est la voix qui lui manque pour avoir la majorité puisque la plateforme loyaliste a 5 membres au gouvernement et que les indépendantistes ont eux aussi 5 représentants. Les indépendantistes qui refusent d'ailleurs pour le moment de s'en mêler. Il se contente de voter blanc et renvoie les loyalistes dos à dos. Le blocage dure depuis bientôt 2 mois et ça commence à inquiéter les responsables politiques, mais aussi les chefs d'entreprise. Pour Philippe Michel, le porte-parole de la plateforme, interrogé par Nouvelle-Calédonie Première, le calendrier ne permet plus d'espérer voir le Congrès adopter le budget avant le 31 décembre, ce qui pénalisera en cascade l'ensemble de l'économie. Pour le moment, le gouvernement se contente d'expédier les affaires courantes et pour certaines choses, ça ne suffit pas. La garantie du gouvernement pour l'achat des avions d'Air Calédonie a ainsi été empêchée cette semaine. Et c'est dans ce contexte que va se tenir début novembre à Matignon le comité des signataires de l'accord de Nouméa. Tous les acteurs locaux seront rassemblés sous l'égide d'Édouard Philippe à 1 an de la tenue du référendum d'autodétermination. Il faut encore arrêter la liste électorale et déterminer la formulation de la question qui sera posée aux Calédoniens. Et à mesure que l'échéance approche, l'intérêt grandit en métropole. Manuel Valls, on en a parlé dans cette chronique, a été nommé récemment président de la mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie et il a adressé lundi une lettre aux Calédoniens, une lettre ouverte publiée par le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes. L'ancien Premier ministre dit regretter sincèrement que certains aient choisi d'aborder le dossier calédonien par le dénigrement, la polémique et l'outrance. Référence à son clash avec Jean-Luc Mélenchon, qui a décidé, rappelons-le, de quitter la mission parlementaire à cause de la présence de Manuel Valls. La Nouvelle-Calédonie ne doit pas être un enjeu de politique nationale à des fins partisanes, ni un prétexte pour des règlements de comptes personnels, écrit Manuel Valls. Et il a souhaité présider cette mission composée de députés de toutes tendances avec beaucoup d'humilité et de modestie. L'actualité en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi la saisie de 600 kilos de cocaïne. La drogue a été découverte à bord d'un voilier. Sa navigation suspecte avait éveillé la curiosité des autorités et la Marine nationale a fini par intervenir et intercepter le bateau dans la zone économique exclusive du territoire. Le bateau a été ramené à quai à Nouméa. 3 personnes de nationalité néerlandaise, polonaise et hispano-péruvienne ont été interpellées et placées en garde à vue. Début août déjà, 1,4 tonne de cocaïne avait été saisie en Calédonie à bord d'un bateau. La drogue était vraisemblablement destinée au marché australien.
Et direction maintenant la Polynésie française avec les territoriales qui se préparent.
Les élections auront lieu dans environ 6 mois, mais plusieurs personnalités politiques du pays annoncent déjà qu'ils ne se représenteront pas. Ils sont 4 représentants à l'Assemblée de la Polynésie française à avoir annoncé qu'ils prendront leur retraite politique l'année prochaine. Il s'agit des indépendantistes Jackie Drolet et Chantal Terriata et des autonomistes Armel Merceron et Moeho Teriitei. Ils ont pour la plupart été ministres à plusieurs reprises au cours de leur carrière. Ces retraits annoncés sont le signe que les partis politiques sont en train de déterminer leur liste en vue de ces élections territoriales. Le parti Front National local, le Tenati, renonce finalement à se présenter, principalement pour des raisons financières. À quelques mois de cette échéance, le gouvernement multiplie les annonces. Le vice-président a dévoilé cette semaine un nouveau train de mesures fiscales. De quoi réjouir les patrons. Mais quand on regarde la situation économique globale, c'est très difficile pour une majorité de la population. À Tahiti et Moorea, les îles les plus peuplées, 55% de la population vit sous le seuil de pauvreté métropolitain qui est établi à 964 euros par mois. C'est l'Institut de la statistique de Polynésie française qui révèle ce chiffre. Il y a même 1/4 de la population de ces îles qui vit avec moins de 500 euros par mois, alors que le coût de la vie est très élevé en Polynésie. Se rendre à Tahiti coûte cher aussi, mais ça pourrait changer un peu. Les dirigeants de French Blue, la filiale low cost de Air Caraïbes, ont rencontré récemment le pays et les professionnels du secteur pour leur présenter leur projet de ligne Paris-San Francisco-Tahiti. Les billets seraient 20 à 30% moins cher qu'aujourd'hui. La ministre du Tourisme se dit très intéressée. La compagnie espère lancer la commercialisation de ses vols avant la fin de l'année pour des premières rotations mobilisation en mai 2018. En attendant, en Polynésie, on se prépare à la saison chaude, qui est aussi la saison cyclonique. Elle commence en novembre et se termine en avril. Cette saison, le pays devrait être épargné par les cyclones. D'après Météo France, le risque est faible. La probabilité d'être touché n'est que de 15%. Il faut malgré tout rester vigilant. Il y a souvent de fortes intempéries pendant la saison chaude. En janvier et février dernier, cela avait d'ailleurs causé des inondations à Tahiti et Moorea, avec de lourdes conséquences pour des dizaines de familles et d'entreprises.
Alors, si la Polynésie devait être épargnée par les cyclones cette saison, le risque est beaucoup plus élevé pour la Nouvelle-Calédonie et pour Vanuatu.
C'est en tout cas ce que prévoit l'Institut néo-zélandais. Ils font partie des pays les plus à risque avec les Fidji et les Tonga. Ils pourraient connaître deux cyclones ou plus entre novembre et avril. En attendant, l'inquiétude au Vanuatu, c'était le volcan Dambé qui est entré en éruption il y a un mois. Toute l'île a été évacuée, mais l'exil forcé des 11 600 habitants va prendre fin. Comme le rapporte NC Première, les autorités vanuataises ont annoncé leur rapatriement puisque le volcan s'est calmé. Le niveau d'alerte a été revu à la baisse. Niveau d'alerte à la baisse aussi en Nouvelle-Calédonie, mais cette fois sur le front des incendies. Après 6 jours très compliqués dans la commune de Paita, les conditions météo se sont améliorées et les pompiers sont parvenus à maîtriser le feu. De gros moyens ont été mobilisés pour cela. Les pompiers de l'aéroport de Tontuta, ceux de Paita, mais aussi ceux de Nouméa, du Mont-d'Or et de Dambéa ont été mobilisés. D'après les estimations, l'incendie aura coûté environ 250 000 euros. Des centaines d'hectares sont partis en fumée, mais heureusement, il n'y a pas de victimes. Et puis les plages polynésiennes parmi les plus belles du monde. D'après le magazine américain Condé Nast Traveler, la plage de Matira à Bora Bora est la 7e plus belle plage du monde. Une plage publique, comme le précise le site, est donc accessible à tout le monde. Pas besoin d'aller dans un resort à 5000 euros la nuit. Une autre plage polynésienne, une autre plage publique se fait une place dans ce classement. Celle de Tikehau, Tuamotu, qui arrive en 20e position. Les lecteurs du magazine l'ont choisi pour les magnifiques plongées qu'offre l'atoll. À noter que ce sont les plages de Hawaï qui restent en tête de classement.
Merci Elodie d'avoir décrypté l'actu du Pacifique pour nous cette semaine.
Merci, à la semaine prochaine.